Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal. Blaise Shindani Kambala à la présentation.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal d'histoire dont voici les titres. Un nouveau pas dans le pourparlers de paix entre Kinshasa et la FCM23 à Doha. Les deux délégations ont signé aujourd'hui un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu au nord et au sud Kivu sous la médiation du Qatar pour tenter de lever les principaux points de blocage. Plus de 10 000 élèves de Lodja sont privés d'école depuis une semaine après le meurtre du président de jeunes du quartier Oteleke. Les autorités de l'EPST appellent les parents à garder les enfants à la maison jusqu'au retour de la paix. La taxe conventionnelle versée par les entreprises minières du Maniema permet d'entretenir plusieurs routes de la province. Pour en parler, nous recevons Amisi Achimou, leur représentant. Il revient sur l'importance de cette contribution au micro de Florence Kizalunga. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Un pas jugé important dans la relance du processus de paix dans l'est de la RDC. Le gouvernement congolais et l'FCM23 ont signé ce mardi à Doha un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu au nord et au sud Kivu sous la médiation du Qatar. Les deux délégations arrivées sur place depuis lundi doivent désormais tenter d'élever les principaux points de blocage des discussions. Martial Papimoukeba pour les détails.
Plusieurs sources évoquent une reprise des discussions considérée comme une étape décisive dans le processus de paix entre les gouvernements congolais et l'AFC-M23. Les échanges doivent aborder les principales sources de divergences, notamment l'échange de prisonniers perçu comme l'un des obstacles majeurs au dialogue. Un mécanisme a déjà été signé, confia au Comité international de la Croix-Rouge le rôle d'intermédiaire neutre pour l'identification et la libération des détenus. Autre dossier sensible, les retours des réfugiés congolais installés dans les pays voisins, inscrits parmi les 7 points de la déclaration des principes signée entre les deux parties. Les gouvernements exigent une identification préalable et refusent tout retour dans les zones encore en conflit, position qui pourrait à nouveau bloquer les pourparlers. Pourtant, les rapatriements des réfugiés demeurent une revendication historique du M23 formulée depuis plus d'une décennie. Ce mardi, les gouvernements et l'AFC-M23 ont également signé les mécanismes de vérification du cessez-le-feu dont les acteurs et les modalités de mise en œuvre n'ont pas encore été révélés. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Pendant ce temps, le territoire de Mwenga au sud Kivu est complètement isolé de la ville de Bukavu depuis une semaine. En cause, tous les engins qui transportent les marchandises en direction de Mwenga sont interdits de progresser sur la RN2 à partir de Bwaungu par l'AFC-M23. Les forces vives du territoire de Mwenga lancent un cri de détresse et demandent aux rebelles de laisser libre passage aux commerçants qui approvisionnent Mwenga en produits de première nécessité. Lungela Itebo, président du bureau de coordination territoriale de la société civile de Mwenga, alerte l'opinion nationale et internationale sur les dangers qui guettent la population au cas où la mesure perdure. On l'écoute.
Le bureau de coordination territoriale de la société civile Force Vive, Mwenga, condamne fermement la décision de la fermeture de passage Bukavu-Mwenga sur la route nationale numéro 2 à Bwaungu par l'AFC-M23 depuis le mercredi 8 octobre 2025. Cette décision illégale perturbe l'ordre social et économique des deux côtés, à Bukavu ou ici en territoire de Mwenga. C'est pourquoi nous exigeons à l'AFC-M23 d'ouvrir le passage pour replacer les civils innocents dans leurs droits fondamentaux à la vie, à la circulation et à la santé. Cette décision viole les textes légaux nationaux et internationaux. Infliger la misère et la souffrance aux civils innocents, c'est les pousser à la révolution et la résistance. Aux parties prenantes de protéger les civils et leurs biens et les garantir libre circulation au respect de la loi.
Nous le disions en titre, dans la province du Sankuru, une semaine après le meurtre du président des jeunes du quartier Otekele, plus de 10 000 élèves de près de 10 écoles catholiques de Lodja n'ont toujours pas repris le chemin de l'école. Les sources sur place affirment que certains jeunes menacent de perturber les cours pour venger la mort de leur feu ami président des jeunes du quartier Oteleke. Le directeur provincial de l'EPST Sankuru 1 demande aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison en attendant que les mesures sécuritaires soient garanties. Les explications avec Esther Ndalafina.
Plus de 10 000 élèves de près de 10 écoles catholiques de Lodja ne fréquentent plus leurs établissements scolaires depuis bientôt une semaine, affirment les sources sur place. Cela après le meurtre mardi dernier du président des jeunes du quartier Otekele. Ce dernier a été pris à partie par les sympathisants d'un élève candidat malheureux à l'élection du représentant des élèves du lycée Lokenye, dirigé par les sœurs franciscaines. Sa dépouille mortelle a été abandonnée toute la journée par sa famille qui réclame toujours le paiement des préjudices. La même source précise que, depuis cet incident, certains jeunes menacent de venger la mort de leur feu ami en perturbant les cours dans les écoles catholiques malgré la présence des agents de l'ordre. Intervenant le week-end dernier dans une émission « Que demande le peuple » sur Radio-Télé Losangania, une chaîne locale, Grégory Bokoma, directeur provincial de l'EPST Sankuru 1, demande aux parents de garder leurs enfants à la maison.
Je vais demander aux parents de garder d'abord leurs enfants en attendant que la paix puisse revenir dans les milliers qui ont été affectés par les échafaudages.
Une décision salutaire pour protéger les enfants. Cependant, certains parents des écoles non concernées par les troubles déplorent la perturbation du calendrier scolaire de leurs enfants. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Des maisons écroulées et de nombreuses personnes dont les enfants sans abri, ça se passe à Luena, territoire de Bukama, dans la province de Olomami. C'est à la suite d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur cette entité samedi dernier. La société civile locale alerte et lance un cri de détresse en faveur de ces sinistrés qui sont exposés à ces intempéries. D'autres détails avec Darik Mwema Kalonda, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile de Luena, joint par Jean Ganduka Bongo.
La commune de Luena a enregistré plusieurs dégâts matériels, entre autres 87 maisons d'habitation, un centre de santé et 3 églises ont été écroulées suite à la forte pluie et vent violent du 11 octobre 2025. Quelques personnes ont été victimes de blessures, dont une fille de 12 ans a connu une fracture à la jambe gauche. Les quartiers les plus touchés, Kamanda, Kimba et Kabioula. Les sinistrés vivent à la belle étoile. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement national, provincial et aux partenaires de pouvoir assister aux victimes.
Identifier les failles d'un système longtemps fragilisé et poser les bases d'une réforme durable du secteur des péages dans les Tanganyika, c'est l'objectif du nouveau directeur provincial des péages routes dans la province. Cédric Machangao a effectué une visite ce lundi au niveau des postes de péage implantés autour de la ville de Kalemie pour identifier les défis sur le terrain. D'après lui, des pratiques illégales de détournement des deniers publics s'opèrent au niveau de ses postes de péage. Le point avec Paul Monanga.
Cédric Machangao Lugunda, directeur provincial de péage route dans le Tanganyika, a visité tour à tour les postes de péage de Lufunkwe, Rugumba et Tundua. Il a inspecté les installations techniques du dispositif de perception et des conditions de travail du personnel. D'après lui, il est question de redonner au péage son rôle de véritable levier économique au service du développement provincial. Au niveau du poste de péage de Tundua, il dit avoir débusqué des pratiques illégales. Cédric Machangao Lugunda.
À 25 km de Kalemie, j'ai découvert une pratique illégale consistant à percevoir des taxes auprès des motards, pourtant exonérés par la décision du gouverneur. J'ai immédiatement pris une mesure disciplinaire et j'ai donné des instructions fermes pour mettre fin à cette pratique d'irrégularité. Cette descente de terrain s'inscrit dans la dynamique audacieuse implicée par son Excellence Christian Kitungwa, gouverneur de province, et mise sur la bonne gouvernance des ressources internes comme moteur de la croissance provinciale.
Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, les 4 membres du bureau de l'Assemblée provinciale visés par des pétitions restent en place. La sentence est tombée lundi au terme du scrutin à bulletin secret organisé par le bureau d'âge mis en place pour l'examen de ces pétitions. Pour le président du bureau d'âge, Prosper Lobanga, il faut que le président de l'organe délibérant garde son poste pour qu'il poursuive l'œuvre qu'il a débutée, celle de la rénovation et de modernisation des bâtiments de l'Assemblée provinciale. Le point avec Jacques Moukonkolé.
28 députés sur les 29 que compte l'Assemblée provinciale ont rehaussé de leur présence cette séance plénière. Sous la direction du président du bureau d'âge, les quatre pétitions sont examinées au cas par cas. Les membres visés présentent tour à tour leurs moyens de défense. Au finish, chacune des pétitions est rejetée par la majorité des députés. Pour le secrétaire du bureau d'âge, Stavros Ngumbu, c'est le triomphe de la démocratie.
Après examination, on se rend compte que les élus ont été objectifs. Ils ont suivi chacun selon les éléments qui a été mis à leur disposition et les élus ont pris leur disposition. Nous n'avons qu'à dire que vive la démocratie, que vive la stabilité des institutions.
Pour Paul Lokesa Bomboli, rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale, il est difficile d'être aimé de tout le monde. Le travail doit se poursuivre sans rancœur contre qui que ce soit pour l'intérêt de la province.
Même si c'est 19 qui ont placé la confiance pour moi, mais je considère tous les 28 députés provinciaux de l'Assemblée provinciale. Il n'y aura pas de querelle, je considère tout le monde, même ceux-là qui ont renouvelé la confiance envers ces personnes, même envers le président de l'Assemblée, le rapporteur adjoint, le caissier, vraiment, on considère tout le monde.
Rappelons que Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, était reproché notamment de détournement des fonds du Frivao, des frais de fonctionnement, ainsi que des violations de la procédure de passation de marché. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit au Nord Kivu, où la fondation Biester dresse un tableau sombre de la situation de la jeune fille au Nord Kivu dans les contextes de guerre que traverse la province. Elle l'a dit au cours d'un atelier de sensibilisation qu'elle a organisé ce lundi 13 octobre à Goma avec l'appui de la section genre de la MONUSCO. C'est dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille qui est célébrée le 11 octobre de chaque année. L'organisation a saisi l'occasion pour sensibiliser les filles à leurs droits ainsi que promouvoir leur participation active dans les communautés autour de l'égalité des chances ainsi que lutter contre les violences basées sur le genre. Elle appelle ces dernières à s'impliquer dans la recherche de la paix, mais aussi à être autonomes. Ceci afin de lutter contre les antivaleurs. Ici, Madame Zaina Mignonne, directrice générale de la Fondation Bi Esther à Esbel, explique l'importance de cette journée.
C'était question de rappeler la jeune fille qu'elle a d'abord une journée dédiée à elle, qu'elle est censée travailler sur ses droits. Elle est censée lutter surtout pour les abus et exploitations sexuelles faites à son égard. C'est pour cette raison que nous avons réuni de jeunes filles de différents domaines et différentes associations pour parler sur cette question de paix dans les zones en conflit, pour parler sur sa participation active dans la résolution de conflits et sa participation dans le processus de la paix. Il est temps que la jeune fille prend vraiment cette question en main et dire non à tout ce qui se passe contre elle et contre son exploitation. Par rapport à la jeune fille du Nord Kivu, elle a subi beaucoup de blessures pendant ce contexte de guerre. Il y a beaucoup de filles qui ont été violées, d'autres qui sont manipulées, d'autres qui sont portées disparues. Mais nous sommes sûrs qu'avec l'appui de la MONUSCO et aussi avec la résolution 2950 qui met un point sur la participation de la jeune fille, on va arriver à surmonter ces défis.
Un mot sur le sport avant d'aller plus loin. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC reçoivent les Crocodiles du Nil du Soudan ce mardi 14 octobre 2025 en match de la 10e et dernière journée du groupe B. Un match crucial qui va déterminer si la RDC jouera la phase finale de la Coupe du Monde plus de 50 ans après la dernière participation du pays. Vanessa Kongolo revient sur l'enjeu de ce match.
C'est le jour de vérité pour la RDC qui joue contre le Soudan ce soir à 20h au stade de Martyrs. Les Léopards doivent gagner ce match pour d'abord sécuriser leur place de meilleur deuxième parmi les quatre meilleurs deuxièmes d'Afrique, synonyme d'une qualification au barrage continental qui se joueront au Maroc. Mais aussi et surtout, gagner en espérant un faux pas du Sénégal face à la Mauritanie, match qui se joue à la même heure que celui de la RDC au stade d'Ablaïouad. Sébastien Desabre, sélectionneur partenaire de la RDC qui continue à croire à la qualification de la RDC malgré le fait d'avoir perdu la première place du groupe au détriment du Sénégal, a dit en conférence de presse d'avant-match que son groupe a encore son destin entre ses mains. La RDC joue en réalité deux matchs ce mardi, l'un contre le Soudan et l'autre à distance contre le Sénégal. Mais en cas d'une défaite, la RDC va oublier complètement cette Coupe du Monde qu'organisée par les USA, le Mexique et le Canada.
Actualité internationale.
L'Assemblée nationale malgache a voté la destitution du président Andry Rajoelina à une large majorité, 130 sur 163 députés. Le chef de l'État avait fait prononcer plus tôt, ce 14 octobre 2025, la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans la foulée, des militaires ralliés à la contestation ont dit prendre le pouvoir. Au Mali, les gouvernements de transition accusent les opérateurs économiques. Les djihadistes du Nîmes ont décrété début septembre un embargo sur les importations des carburants. Leurs attaques quasi quotidiennes empêchent l'approvisionnement normal du pays. Le 13 octobre, ce sont des entreprises du secteur des hydrocarbures qui ont été sévèrement tensées par le ministre malien de l'Industrie et du Commerce.
L'invité.
Notre invité est Amissi Achimou, représentant des entreprises minières du Maniema. Il nous parle de l'impact de la taxe conventionnelle que les miniers payent régulièrement pour la réhabilitation des routes du Maniema. Amissi Achimou s'entretient avec Florence Kizalunga.
Amissi Achimou, bonjour.
Bonjour Madame Kizalunga.
Opérateur minier, vous payez régulièrement la taxe conventionnelle. Est-ce que vous avez déjà eu le résultat de cette taxe?
Oui Madame, nous venons de palper du doigt les résultats de cette taxe parce qu'au départ, ce n'était pas facile. Il y a eu des tractations avec l'autorité provinciale pour nous convaincre, ce n'était pas facile. Mais maintenant, avec ces tournées que nous venons d'effectuer dans les deux territoires, donc on a commencé à 19 km, la route Nyoka jusqu'à Pangi Centre. Quitté Pangi Centre, nous venons de traverser Loubile, Kalima, Kailo, jusqu'au barrage d'Amboué. Donc nous trouvons que avec la taxe que nous sommes en train de payer, l'argent est bien justifié.
Pensez-vous que avec l'initiative du gouvernement provincial et si vous le miniez, vous appuyez cela, ça peut changer la situation de notre province?
En tout cas, ça doit changer. Nécessairement, d'abord, il y a eu des échos favorables. Avec la descente que nous venons d'effectuer ensemble avec vous, madame journaliste, vous voyez vous-même. Donc, de l'autre côté, vers Pangui, on nous a dit que les derniers véhicules étaient passés là-bas en 1981. Mais avec la taxe que nous, miniers, nous sommes en train de payer à travers l'initiative de l'autorité provinciale, mais il y a eu un cortège de véhicules, plus de 21 véhicules qui viennent de passer sur cette route-là.
C'est-à-dire, c'est un offre de soulagement pour vous. En quoi est-ce que ces routes vous est utile, vous, opérateur minier?
Bon, vous savez, avec les négociants, lorsqu'ils achètent les minéraux pour arriver à la destination de Kindu, s'il y a des conditions de route ne sont pas bonnes, ça risque de bloquer que les minéraux n'arrivent pas à la destination aux entités de traitement dont je représente. Donc il y a des retombées, il y a des signaux forts avec cette réhabilitation de nos routes.
Quelles étaient les conséquences pour vous miniers avant la réhabilitation de ces tronçons quand vous évacuez vos minéraux?
Madame journaliste, on avait connu beaucoup de braquages lorsqu'il y avait des mauvaises routes dans les axes que les négociants achètent des minéraux, tels que 80 jours sur la route qui mène vers Kailo, là il y avait des braquages. Comme on savait que la route n'était pas praticable, donc les bandits à main armée ont profité de cette mauvaise route pour traquer les gens là-bas.
Est-ce que c'était seulement les opérateurs miniers ou vous étiez ciblés ou comment?
Bon, la logique, nous opérateurs miniers, nous étions ciblés parce que on sait que les opérateurs miniers, nous avons beaucoup de moyens. Lorsque on envoie quelqu'un pour déposer l'argent auprès des négociants, là on braque les gens parce qu'on savait qu'il y a mauvaise route de la route qui mène vers Kailo. Mais maintenant aussi, lorsque vous transportez les minéraux, de votre retour, on peut encore vous braquer là-bas, on récupère les produits pour que les bandits profitent.
C'est que avec la réhabilitation de ces tronçons, vous êtes en train de sillonner la province jusqu'au chef-lieu sans problème, sans difficulté avec vos minéraux.
En tout cas, actuellement, il n'y a pas de souci à ce qui concerne la sécurité parce que toutes les routes sont en bon état. Ça nous permet de faire nos activités correctement et calmement. Et ça arrive à temps réel parce que vous quittez Kailo. Actuellement, les minéraux quittent de Kailo Kindu, on peut faire même 3-4 courses avec la condition de la route que l'autorité provinciale, à travers son initiative, y vient de réaliser.
Mais il y a certains d'entre vous qui ne sont pas encore favorables à cette cette initiative du gouvernement provincial.
En tout cas, madame journaliste, à ce qui concerne le secteur minier, nous tous nous sommes très satisfaits. Parce que nous, comme opérateurs miniers, avec les réhabilitations de nos routes, ça nous permet de continuer à faire nos activités calmement. En tout cas, nous tous nous sommes favoris.
Et parmi vous, les miniers, il y a ceux-là qui sont impliqués pour faire le suivi de tout ce que vous donnez comme argent pour la réhabilitation des routes.
Moi, ici qui vous parle, je suis le porte-parole des opérateurs miniers, secrétaire aussi exécutif des opérateurs miniers et conseiller juridique. Donc, je suis chargé de faire le suivi et mobilisation de la taxe conventionnelle. Depuis que nous avons commencé, on fait le suivi et on mobilise les gens pour les paiements aussi. Nous évaluons les travaux, comment ça se passe.
Et comment est-ce que vous évaluez ces travaux ici?
En tout cas, présentement, l'évaluation, nous trouvons que le gouverneur a plus ou moins 80 sur 100. Ici, je trouve que c'est très bien, avec possibilité d'améliorer à la prochaine et d'ajouter. Parce que ce qui manque là-bas, avec les réhabilitations des routes, c'est bon, c'est seulement les ponts. Je sais que l'initiative de l'autorité provinciale, comme on venait de palper du doigt, nous tous ensemble, nous sommes obligés d'évaluer et de faire le mieux plus que ce qu'on a vécu sur le terrain.
Vous pensez que si vous, les opérateurs miniers, vous continuez à payer régulièrement cette taxe, la province du Maniema sera totalement désenclavée?
En tout cas, sans doute, je trouve que dans 2 ans, ou bien dans 1 an et demie, je ne suis pas l'autorité provinciale pour répondre à cette question. Mais avec notre mobilisation, en tout cas, je ne doute pas que dans 2 ans, on ne peut pas relier tous les Maniema dans son ensemble.
Amissi Hachimou, je vous remercie.
Merci, madame journaliste.
Notre invité Amissi Hachimou s'entretenait avec Florence Kizalunga et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal Vespéral, coordonnée par Vicky Odiambala, supervisée par Polly Mouzalia. Alain Goy, la mise en onde. Vous pouvez encore réécouter ce journal sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.